Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Planter des arbres, cultiver de façon durable, réduire le gaspillage, voilà les pistes préconisées par le rapport du GIEC, le groupe d'experts international sur le climat. Leur rapport, adopté hier à Genève, sera publié aujourd'hui. Comment sauver le climat? On en parle avec votre invité Pierre Veil.
Cyril Dion, militant écologiste, réalisateur de documentaires, on se souvient du documentaire Demain, il est un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Promise par Emmanuel Macron, les participants seront tirés au sort ce mois-ci. Il sera avec nous à 8h20. Vous pourrez l'interroger vers 8h35 en appelant dès maintenant le 01 45 24 7000.
Vous en avez peut-être un dans votre jardin. Attention au danger du trampoline. De plus en plus d'enfants sont victimes de fractures et d'entorses. Explications et conseils dans ce journal. L'impasse au Venezuela après les nouvelles sanctions économiques prises par les États-Unis. Le président Maduro suspend le dialogue avec l'opposition et lance les grandes manœuvres. Plus de 100 ans après leur création, les scouts ont le vent en poupe. Les inscriptions sont en hausse et des nouveaux groupes voient le jour un peu partout en France. Et puis zoom ce matin sur le PSG. À la veille de la reprise de la Ligue 1 de football, sans Neymar sur le départ, mais avec en vedette un Kylian Mbappé déterminé. France Inter. Comment nourrir les 10 milliards d'habitants que comptera la planète en 2050 sans épuiser la Terre? C'est cette équation que tente de résoudre le dernier rapport du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. Les 195 pays membres ont adopté hier ce texte au terme d'une session marathon à Genève. 1200 pages qui seront rendues publiques à 11h30 et dont vous nous dévoilez, Célia Kiré, les grandes orientations.
Les exigences portées par les experts peuvent paraître inconciliables. D'un côté, il faut préserver les sols pour sauver la planète, et de l'autre, il faudra bien les utiliser pour nourrir près de 11 milliards d'habitants en 2100. Pour limiter le réchauffement, l'une des solutions est de planter des milliers d'arbres, de préserver les forêts, le but étant de stocker du CO2 pour réduire l'effet de serre. L'Éthiopie prévoit par exemple de planter 4 milliards d'arbres, mais en même temps, il faudra garder des terres à cultiver et trouver des techniques plus durables. Aujourd'hui, l'agriculture et la déforestation représentent près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable. Et pourtant, cela risque de s'aggraver si l'on ne change pas nos habitudes alimentaires. En 2050, il faudrait 56% de nourriture supplémentaire, selon l'un des experts. Seule solution donc, selon les chercheurs, un usage optimal des terres, moins de déforestation et donc moins de soja, par exemple, des changements d'habitude et une réduction massive du gaspillage. Chaque année, une surface de forêt tropicale équivalente au Sri Lanka est perdue. En parallèle, près d'un tiers de la nourriture produite est gaspillée.
Et la chasse au gaspillage, ça vaut pour la nourriture, mais aussi pour l'eau, une ressource plus précieuse que jamais. Pour l'économiser, toutes les idées sont utiles. Dans le sud de la France, sur le canal du Midi frappé par la sécheresse, le service des voies navigables de France demande aux péniches et aux bateaux de bien vouloir faire écluse commune. C'est un reportage de Vanessa Marguet de France Bleu Occitanie.
L'écluse d'Aiguevive au sud de Toulouse s'ouvre, elle laisse passer deux péniches. Il faut regrouper un maximum les bateaux, ce que comprend très bien Jules, un Anglais en vacances qui navigue depuis Narbonne.
Les éclusiers, il nous a dit, à cause de manque d'eau, on va vous regrouper si on peut. À un moment donné, on était regroupé avec un bateau de location. On attendait 10 minutes, et pas de problème, bien sûr, il faut économiser le maximum.
Économiser, car l'Aude qui alimente le canal après Carcassonne est à un niveau très bas, et les mouvements d'écluses se traduisent au bout du bout par une déperdition dans la mer. Les restrictions au niveau des écluses sont donc nécessaires pour Jacques Noisette de VNF.
C'est une mesure qui nous permet d'éviter des fermetures de canaux comme il peut y avoir sur d'autres canaux en France. Je pense notamment au canal du Centre, au canal de Bourgogne, qui aujourd'hui sont plus atteints que nous et où la navigation doit être ou ralentie, voire même fermée.
Sur le canal du Midi, le regroupement des bateaux est donc un moindre mal. C'est même plutôt bien pour les navigants amateurs comme Christine et son mari.
Nous, les écluses, c'est plutôt le stress d'aller vite. En fait. Parce qu'il faut sortir du bateau, il faut attraper les cordes, il faut être prêt à temps. Donc on est moins dans l'attente que dans la préparation pour passer l'écluse à temps.
On se sent pas seul, tout le monde est un peu novice.
Ouais. C'est quand même vraiment sympa.
Oui, ça n'a effectivement pas l'air de gâcher les vacances au rythme de l'eau.
Un reportage de Vanessa Marguet.
Il est 8h05, le journal Corinne Audouin. Corinne, on pensait l'affaire définitivement enterrée. L'alliance entre Fiat et Renault, c'est peut-être pas tout à fait cela.
Oui, c'était il y a deux mois. Le constructeur italien avait quitté avec fracas les discussions autour d'une possible fusion avec Renault. Mais le patron de Fiat rouvre la porte. La logique industrielle de cette fusion existe toujours, a-t-il dit au Financial Times, ce qui relance le feuilleton Maxime Debs.
Il y a dans ce retour plus ou moins témoin officiel de Fiat dans la danse, une volonté affichée de ne pas renoncer, et de la part des Italiens à l'initiative des premières discussions, et de la part de Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, dont on dit en interne qu'il ferait de ce dossier une question d'orgueil. L'homme n'avait d'ailleurs pas caché son agacement sur scène lors de la dernière AG des actionnaires, lorsqu'il avait fallu mettre les points sur les i avec le ministre de l'économie. Bruno Le Maire accusé alors d'avoir fait capoter l'affaire il y a 2 mois. Une voix chez Renault le confirmait encore il y a quelques semaines. Jamais les téléphones des deux côtés des Alpes n'ont cessé de fonctionner. Un fin connaisseur du dossier de s'interroger tout de même. Tout ce temps perdu à courir après un partenaire qui a claqué la porte une première fois, c'est du temps qu'on ne rattrape plus avec ses amis, comprenez Nissan, avec qui les projets sont depuis plus ou moins à l'arrêt.
8 ans de prison pour une femme de 37 ans de retour de Syrie. Elle y avait passé 9 mois en 2017 avec ses 3 enfants. Le jugement a été rendu hier soir par le tribunal correctionnel de Paris. Elle est condamnée pour association de malfaiteurs terroristes et soustraction d'enfants. Au Canada, la chasse à l'homme qui a tenu en haleine pendant 2 semaines l'armée et la police vient de prendre fin. 2 corps ont été retrouvés dans le nord du pays, très certainement ceux de 2 jeunes gens accusés de 3 meurtres qui étaient en fuite. On s'éloigne d'une possible sortie de crise au Venezuela. Après les nouvelles sanctions économiques prises par les États-Unis, le président Nicolas Maduro suspend le dialogue avec l'opposition. Face à la pression internationale de plus en plus forte, le régime lance les grandes manœuvres avec de nouveaux exercices militaires qui mobilisent 1 million de Vénézuéliens. Les explications de notre correspondant dans la région, Eric Sanson.
Armée de terre, marine, aviation, garde nationale bolivarienne et les volontaires des milices, toujours prêts à faire le coup de poing, voire le coup de feu pour le régime, c'est le banc et l'arrière-banc de la révolution bolivarienne qui est mobilisé. Ces exercices ont pour but de défendre le Venezuela contre les délits transfrontaliers. Ils sont aussi une réponse aux quelques 50 pays qui, mardi dernier à Lima, ont réaffirmé leur appui à l'opposant Juan Guaido. Néstor Populizio, ministre péruvien des Affaires étrangères.
La communauté internationale doit soutenir les efforts du président intérimaire Juan Guaido pour récupérer la démocratie vénézuélienne et reconstruire son économie. La solution à la crise est urgente.
Après avoir interdit en janvier aux compagnies américaines d'acheter du pétrole vénézuélien, la décision en début de semaine de Donald Trump de bloquer les biens du régime aux États-Unis pourrait pousser de nombreuses compagnies à ne plus importer de pétrole vénézuélien. À Lima, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a d'ailleurs conseillé à ces compagnies de ne pas risquer leurs intérêts commerciaux aux États-Unis pour aider un régime, je cite, « corrompu et agonisant ». Caracas a riposté à cette pression accrue de la communauté internationale en décidant de ne pas envoyer ce jeudi de délégation à la Barbade où des négociations étaient prévues avec l'opposition. Quito, Eric Sanson, France Inter.
Une visite sous tension pour Donald Trump à Dayton et El Paso, les 2 villes endeuillées par des fusillades le week-end dernier. Le président des États-Unis s'est rendu au chevet des blessés. Il a été accueilli par des centaines de manifestants en colère, tenus à l'écart de la visite. Ils accusent Donald Trump d'avoir attisé la haine avec ses discours et réclament des contrôles renforcés sur les ventes d'armes à feu. En Grèce, le nouveau Premier ministre conservateur engage le virage à droite, élu il y a 1 mois sur la promesse de réformer l'État après 4 ans de gauche au pouvoir. Kyriakos Mitsotakis a déposé 3 projets de loi au Parlement pour une adoption express d'ici la fin de la semaine, avec comme objectif une réforme profonde des institutions. À Athènes, Angélique Kourounis.
Levée de l'asile universitaire, baisse des impôts, embauche de policiers, réorganisation administrative, modification du code pénal. Cette loi touche à tout. Mais ce que toute l'opposition reproche au Premier ministre Mitsotakis, c'est une centralisation excessive des pouvoirs. Dans la rue, les avis sont partagés. Kostadinos, entrepreneur de 43 ans, y est favorable.
Je pense que toutes les décisions du gouvernement, tant pour ce qui est des impôts fonciers que pour cette nouvelle forme d'État qui est un véritable état-major, et surtout à mon avis pour l'abolition de cette pagaille qui a régné dans les universités, est justement ce que devait faire le nouveau gouvernement dès le début.
Dimitri, 25 ans, lui, est beaucoup plus nuancé.
Pour l'abolition de l'asile, je suis partagé. Il y a de l'abus, c'est sûr. D'un autre côté, lorsque la nouvelle loi sera votée, le gouvernement pourra profiter pour ordonner à la police de faire irruption quand elle le voudra.
Kyriakos Mitsotakis veut profiter de la trêve estivale pour faire passer un maximum de lois et réformes. But de la manœuvre, convaincre les créanciers de faire baisser l'excédent budgétaire imposé au pays de 3,5% par an.
Athènes, Angélique Cournis, France Inter.
8h10, retour en France. C'est l'un des jeux préférés des enfants pendant les vacances, Corinne, les trampolines.
Oui, c'est amusant, mais c'est un loisir qui n'est pas sans danger. Les médecins alertent sur les risques de fractures et d'entorses de la cheville et du poignet. Des accidents pas forcément graves, mais qui sont de plus en plus fréquents. Les explications de Véronique Julia.
Au Canada et aux États-Unis, les pédiatres et les chirurgiens orthopédistes déconseillent l'utilisation des trampolines pour les plus petits depuis déjà près de 10 ans. Trop d'accidents recensés dès le milieu des années 2000, avec parfois, même si c'est rare, des atteintes à la colonne vertébrale. En France, les autorités sanitaires relèvent que le nombre d'accidents a été multiplié quasiment par 20 en l'espace de 10 ans chez les 5-9 ans. Aux urgences de Sarlat en Dordogne, le docteur Sébastien Pouzoulet estime qu'un patient sur 10 vient l'été dans son service à cause d'un trampoline. Des enfants de moins de 6 ans surtout, quelques adolescents aussi, la plupart pour des entorses à la cheville.
C'est pas des chutes du trampoline en fait, c'est vraiment en sautant sur le trampoline, en se réceptionnant que la cheville se tord. On a parfois aussi des traumatismes du poignet, pareil, quand ils retombent pas sur leurs jambes. Quelques fractures, s'ils retombent sur la tête, ça arrive aussi quand ils essaient de faire des saltos. Là, on peut avoir des entorses cervicales. On a eu des enfants qui avaient des petites paresthésies, c'est-à-dire des fourmis dans les mains. Ça montrait quand même qu'il y avait eu un traumatisme du rachis. Alors moi, pour ma part, j'ai pas vu de lésions graves du rachis, hein, personnellement. C'est quand même assez rare, mais ça arrive si on retombe sur la tête.
75% des accidents surviennent lorsque les enfants s'amusent à plusieurs sur le trampoline. Il est donc conseillé de les faire jouer un par un, ou au moins de les surveiller et d'éviter les trop grandes différences de poids entre eux. Autre conseil de bon sens, couvrir de mousse les ressorts, crochets et cadres en métal, fermer le filet de sécurité pour éviter les chutes et bannir les sauts périlleux.
Voilà les conseils de Véronique Julia. Scout toujours prêt, le slogan n'est pas neuf, mais il revient au goût du jour. Alors que les colonies de vacances n'ont plus la cote, les scouts et guides de France voient affluer les jeunes recrues, plus 20% en 5 ans, ça représente 60 000 enfants, encadrés par 25 000 bénévoles. Et de nouveaux groupes voient le jour partout en France. Reportage Mathilde Dehimi.
Grégoire vient de poser son sac à dos après 3 semaines de camp d'été. Le chef scout de 23 ans a ouvert cette année un tout nouveau groupe à Brigné, près de Lyon.
Les groupes autour étaient surchargés, du coup un groupe a été créé. On a eu le succès immédiat avec 25 jeunes dès la première année. Après avoir découvert le vrai camp pendant une semaine ou deux suivant leur âge, les enfants sont très motivés, ils ont très envie de revenir l'an prochain.
Le scoutisme attire pour ses classiques, vivre ensemble, se débrouiller dans la nature. Le plus grand mouvement, les scouts et guides de France, s'implique de plus en plus aussi dans les sujets de société, avec notamment une participation active aux marches pour le climat, à la demande des jeunes comme Mathilde Cheftaine de 20 ans.
Ils ont réussi à évoluer avec le temps, et notamment en écoutant les jeunes de leur propre mouvement qui leur proposaient des choses afin de faire évoluer leur mouvement sur cette cause climatique.
Le suivi tout au long de l'année et non seulement l'été rassure aussi les parents et ce quel que soit le milieu social. François Mandil, délégué national Scout et Guide de France.
On a une croissance forte dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers politiques de la ville. Le scoutisme permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On vit la même chose et donc la mixité sociale est très simple à faire vivre.
Le scoutisme s'ouvre, c'est important, dit François Mandil, pour ne pas rester dans l'entre-soi. Un tiers des bénévoles encadrants n'a jamais fait de scoutisme dans sa jeunesse.
Carton plein pour les tennismen français au tournoi Master 1000 de Montréal. Richard Gasquet, Gaël Monfils et Adrian Manarino se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. À noter que l'Espagnol Rafael Nadal, numéro 2 mondial et tenant du titre, s'est également qualifié. Et puis c'est déjà la rentrée pour le football, début de la saison de Ligue 1 demain. Ce sera avec le choc Monaco-Lyon à 20h45. On se penche ce matin sur le cas du PSG. Le champion sortant a changé de directeur sportif, traverser le mercato plutôt discrètement, sans recrutement en or. Alors Neymar est sur le départ, mais le joueur star de cette saison, eh bien c'est Kylian Mbappé bien sûr. Bruno Salomon.
Du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé a la maturité d'un vieux briscard. Avant d'attaquer la saison, l'attaquant du PSG a tenu à déminer le terrain qu'il a lui-même miné avec ses déclarations fin mai lors des trophées UNFP.
Ce que j'ai fait, je pense que c'était pas le bon endroit. Mais je m'excuse sans m'excuser parce que, voilà, ils ont plus pas compris mon message et... Je pense que c'était plus pas seulement dans mon intérêt, j'ai envie de gagner et de gagner avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que pour moi c'était aussi dans l'intérêt du club, mais... Voilà, on s'est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Après cette sortie et en 2 mois, le PSG a changé de directeur sportif. Côté mercato, le club s'est renforcé avec 6 joueurs pour une enveloppe de 80 millions d'euros. La discipline est revenue en interne et Kylian Mbappé prend plus de responsabilités.
Peut-être que durant cette préparation, j'ai fait plus de choses que je ne faisais pas l'année dernière. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Peut-être que j'avais pas fait assez ou... Je pense que je suis revenu avec de très bonnes intentions à cette reprise, donc tout va bien pour moi.
Ambitieux avec le PSG, avec qui il veut remporter le championnat, les deux coupes nationales et faire mieux cette saison qu'un huitième de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé va aussi avoir des ambitions très élevées à titre personnel, en ligne de mire, comme d'habitude, le Ballon d'Or.
Voilà, ramène le Ballon d'Or à la maison, c'est ce qu'on va dire à Kylian, n'est-ce pas?
Absolument,
Pierre,
tout à fait, c'est très bien dit. C'était le journal de Corinne Audouin, la météo, Stéphanie Fromentin. C'est maintenant retour au calme à l'Est, Stéphanie.
Moi, j'ai le Ballon d'Or dans le ciel, des Alpes du Nord en passant par la région centre, la Bourgogne et le Grand Est. Les éclaircies sont déjà belles malgré quelques plaques de brouillard en Franche-Comté. Sur le Nord-Ouest, une perturbation très atténuée donne des averses faibles et éparses de la Bretagne à la Normandie. Entre les deux, de la Gironde à la Vendée, du bassin parisien jusqu'au Hauts-de-France, le ciel se charge avec quelques averses qui pourront déborder, notamment sur les Pays de Loire et plus au nord de la Seine. Ailleurs, le soleil, donc ce Ballon d'Or, domine. Cet après-midi, la perturbation, elle ondule en donnant toujours de petites averses sur le Finistère et le Cotentin. Quelques ondées débordent encore entre la Belgique et le nord de la Loire, mais de la Lorraine à la Bourgogne, le Jura, le Limousin et la Gironde, les éclaircies deviennent plus larges et le soleil se maintient dans le sud. Le vent souffle légèrement aujourd'hui aussi sur la Bretagne, en Corse et sur les côtes varoises.
Stéphanie, le mercure va donner un coup de chaud?
Oui, ce matin il est encore un peu calme avec 12-18 degrés voire 20 sur les côtes basques, jusqu'à 23 en Méditerranée, mais cet après-midi il grimpe de 4 à 6 degrés de plus par rapport à hier. Il fera 25 degrés à Vannes, 35 à Montauban, 23 à Dunkerque, 29 à Paris et 32 degrés à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron.